Jean, où il est 9h40. C'est à vous, Namoury Dosso.
Merci, Xavier Besson.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Bienvenue et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez dans la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Comme chaque vendredi, vous avez la parole, que vous ayez un commentaire, un coup de gueule ou une réaction au sujet d'une actualité. Nous ouvrons notre antenne à vos voix, vos témoignages, vos réflexions, afin de s'écouter, échanger, débattre et pourquoi pas rire ensemble. Prenez la parole, exprimez-vous, le standard est ouvert, 33 9 693 693 70. Je lirai également les réactions que vous nous avez envoyées via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. On commence cette libre antenne avec une actualité politique en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, ancien ministre et financier international, a été élu hier candidat du PDCI-RDA pour la présidentielle prévue le 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Une information qui fait la une de certains médias actuellement à Abidjan. Nous, vous êtes dans la capitale économique ivoirienne, soyez le bienvenu.
Bonjour Monsieur Namoury Dosso.
Alors vous êtes déçu par le résultat de la convention du PDCI. Alors expliquez-nous pour quelle raison.
Oui, en fait, Monsieur Namoury Dosso, merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Monsieur Kone Nouo. Je suis déçu du plus vieux parti de mon parti et de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Parce que le PDCI signifie Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et quand on voit de la manière qu'ils ont choisi Tidjane Thiam, ils n'ont pas choisi en tant qu'une démocratie. Ils ont choisi en tant qu'une monarchie.
Alors attendez. Vous nous dites qu'il n'y a pas assez ou qu'il n'y a pas de démocratie au sein du PDCI alors que la convention a eu lieu il y a quelques jours.
Monsieur Namoury, il n'y a pas de démocratie au sein du PDCI.
Alors qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Donnez-nous des arguments. Qu'est-ce qui vous amène à dire ça?
Merci, parce qu'il y avait un candidat déclaré en la personne de Monsieur Jean-Luc Bion. On devait laisser Monsieur Jean-Luc Bion déposer sa candidature au même titre que Monsieur Tidjane Thiam. Ils vont compétir. Ça dépendait maintenant des membres du bureau politique d'élire entre Jean-Luc Bion ou Tidjane Thiam. Rappelez-vous, Monsieur Namoury.
Nous, pardonnez-moi de vous couper. Je vous coupe, mais vous dites que Jean-Luc Bion n'a pas pu se présenter. Or, c'est lui qui a choisi de ne pas de présenter sa candidature. Personne ne l'a empêché de se présenter lors de cette convention.
Mais parce que les structures qu'ils ont mis en place au sein de la CEI du PDCI empêchaient M. Jean-Luc Bion de déposer sa candidature, M. Namoury Dosso.
Ah, c'est pas vraiment ce que disent les faits, nous. Toutes les candidatures étaient ouvertes. La preuve, Tidjane Thiam, il y a quelques jours, a levé les suspensions contre certains cas du PDCI, dont Jean-Louis Bion. Il avait donc la possibilité de se présenter, de participer à la convention du PDCI, nous.
Mais Mme Valérie Yapo dit que M. Tidjane Thiam n'avait pas l'autorité de lever les suspensions, puisqu'il était traduit devant les tribunaux par Valérie Yapo, qui était dans le bureau politique du PDCI.
Alors rappelons quand même que Valérie Yapo est une dissidente du PDCI qui conteste la légitimité de Tidjane Thiam à la tête du PDCI. Elle a intenté plusieurs actions judiciaires. Aucune n'a donné de résultat pour le moment. Il doit y en avoir une autre prochainement. En attendant, Jean-Louis Bion, Tidjane Thiam est le président du parti, donc il a toute légitimité pour agir. Vous ne pensez pas?
Oui. Oh oui, il a tout le légitime d'agir. Mais on les laisse faire, puisque c'est lui qui a été déclaré par le bureau politique. On lui souhaite bonne chance, mais je veux dire à mon personnalité qu'ils n'ont pas joué à la démocratie au sein du plus vieux parti de mon parti.
Alors nous, on a très bien compris votre point de vue. Restez avec nous quelques secondes, nous. Je vous présente Oumar, il est également à Abidjan. Bienvenue Oumar.
Bienvenue, bonjour, Monsieur Namoury Dosso.
Alors vous souhaitiez réagir après les résultats de cette convention du PDCI-RDA, à l'issue de laquelle Tidjane Thiam a été élu avec 99,50% des voix.
Oui, c'est tout dire. C'est pour dire que le PDCI-RDA a placé toute sa confiance en la personne de M. Tidjane Thiam. Et c'est tout à son honneur. Aujourd'hui, M. Jean-Louis Bion a compris qu'il ne faudrait pas partir en rang dispersé. Il faut une union autour de ce parti-là pour les prochaines présidentielles qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, c'est un peu ça. Donc je me félicite déjà pour l'élection de M. Tidjane Thiam. Voilà.
Alors, je précise quand même, Oumar, que Jean-Louis Billon, l'ancien ministre ivoirien du commerce, également candidat, a déclaré à la présidentielle, n'a pas participé à cette convention du PDCIA et qu'il a dénoncé, je cite, les modalités d'organisation de la convention. Néanmoins, il avait la possibilité d'y participer, comme on le disait auparavant avec nous. On reste à Abidjan, où l'on retrouve Alain. Bonjour Alain.
Bonjour Dosso.
Alors vous êtes plutôt mitigé après cette convention du PDCIRDA en Côte d'Ivoire.
Effectivement, c'était une évidence que Tidiane Thiam soit choisi comme le candidat du PDCI. Mais plutôt moi, je regarde un peu en arrière l'arrivée de Tidiane Thiam à la tête de ce PDCI-là. Comment cela s'est organisé? Dans les normes, 22 ans après être parti de la Côte d'Ivoire, quand Tidiane Thiam revenait, il devait d'abord avoir l'unanimité au sein du parti, échanger avec les autres camarades, parce que c'est frustrant que pendant les 22 ans, quand il est parti,
alors,
le parti a...
Alain, vous avez utilisé le mot unanimité. Je tiens juste à préciser qu'en décembre 2023, il y a eu un vote, une convention au PDCI, et Tidiane Thiam a été élu démocratiquement avec plus de 90% des voix.
Non, mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Il y a des candidatures qui ont été rejetées, comme la candidature de Guy Kawé, qui après, maintes fois, est revenu parce que pour lui, le PDCI comptait pour lui, donc il ne voulait pas aller en justice avec son parti. Mais il faut le dire que les problèmes de Tidiane Thiam sont partis de là. Oui, l'organisation de ce congrès-là a vraiment mis des personnes comme Jean-Louis Billon, comme les personnes comme Yapo, en porte-à-faux avec Tidiane Thiam parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils se disent que Tidiane Thiam n'a pas participé à cette vie du PDCI.
Mais Alain, vous parlez de la vie du PDCI. Est-ce que c'est pas sain qu'au sein d'un parti politique, notamment en Côte d'Ivoire, qu'il y ait des débats, des mouvances, des avis contraires? C'est pas ce qu'on appelle la démocratie qui est utilisée dans le nom du PDCI.
Oui, mais les avis contraires aussi, on accepte la candidature des autres au Congrès pour qu'ils puissent eux aussi défendre leur position.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je disais à l'auditeur précédent. Tidiane Thiam a levé les suspensions contre les cadres du PDCI qui étaient suspendus. Tout le monde pouvait participer à cette convention.
La levée de suspension ne résout pas le problème. Parce que déjà, ils sont à couteau tiré. Or, c'est au début du feuilleton qu'il fallait régler ces problèmes avant d'arriver à la convention. Or, comme le problème n'a pas été réglé au début et qu'ils vont à la convention, vous voyez qu'au fur et à mesure, la scission commence à s'installer. Et aujourd'hui, Yapo traîne le PDCI.
Mais alors, Alain, puisqu'on parle de démocratie, vous utilisez beaucoup le mot démocratie, est-ce que le meilleur moyen de résoudre ces divergences au sein du PDCI, c'était pas de participer à cette convention et afin que les urnes parlent?
Non, c'était d'abord de permettre à tout le monde de participer au congrès qui allait désigner le président du parti. Jean-Louis Billon dit que lui ne souhaite pas être le président du parti, mais lui souhaite être le candidat du parti. Et vraiment, ce palabre-là a conduit le PDCI vraiment dans l'impasse. Et aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, moi, je pense que peut-être la candidature de Tidiane Thiam serait incertaine. Parce que là, Viviane Yapo soulève le problème de l'article 48 du...
Faisons une petite parenthèse pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi ce dossier ivoirien. Tidiane Thiam est né en Côte d'Ivoire, il a acquis la nationalité française en 87 et y a renoncé en mars dernier afin de se présenter à la présidentielle. Mais selon ses détracteurs, l'acquisition d'une autre nationalité l'a automatiquement déchu de sa nationalité ivoirienne en vertu de l'article 48 du Code de la nationalité datant des années 1960. Voilà, parenthèse fermée, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle.
Donc, Namori, je reviens pour dire que quand Yapo arrive devant la juridiction, elle utilise cet article-là pour vraiment coincer Tidiane Thiam. Et là, effectivement, il va falloir vraiment faire beaucoup d'efforts pour revenir sur la...
Alors, nous verrons ce que les tribunaux ivoiriens décideront, parce que l'affaire est toujours en cours. Merci Alain de nous avoir donné votre témoignage au sujet de cette convention du PDCI. RDA, juste dernière question, est-ce que vous êtes conscient, vous êtes confiant vous vis-à-vis des chances du PDCI lors de la prochaine élection en Côte d'Ivoire? Alain, est-ce que vous m'entendez?
Oui, les chances du PDCI à cette élection-là vraiment sont très minces. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Tidiane Thiam ne sera pas épargné. Les gens vont utiliser vraiment l'article 48 contre lui. Parce qu'on sait que c'est en masse qu'il s'est défait de ses liens de la nationalité. Et je ne pense pas que, au niveau de la constitution, les gens puissent le laisser compétir. Parce que déjà, le cas Tioté Cheikh, qui est aujourd'hui cas de jurisprudence en Côte d'Ivoire, c'était l'effet similaire. Où Tioté Cheikh était, naturalisé français, qu'il est venu, il s'est défait de sa nationalité, mais malheureusement n'a pas pu compétir à cause de l'article 48. Et Maître Blessy, le conseil de Tidiane Thiam, a eu à affirmer que Tidiane Thiam a eu la nationalité par hérédité. Or, il a été naturalisé, n'a pas eu la nationalité par hérédité. Comme
alors, on ne va pas refaire le débat, Alain. Pour l'instant, la question est devant la justice. Lorsqu'on aura une décision, des faits sur lesquels nous pourrons argumenter, eh bien, nous ouvrirons le débat et puis on vous réinvitera pour que vous nous donniez votre avis. Bien évidemment, l'actualité politique en Côte d'Ivoire, c'est à suivre sur RFI, dans nos journaux et sur notre site RFI.fr. Un tout autre sujet à présent. On sera en Gabon. On accueille en ligne Serge qui est à Libreville. Bonjour Serge.
Bonjour Wally.
Alors vous êtes, c'est Namori Dosso à l'antenne et on passe un salut à Juan Gomez qui doit sans doute nous écouter de là où il est. Merci. Alors Serge, on est ravis de vous entendre. Vous souhaitiez intervenir au sujet de la présidentielle dans votre pays. Un scrutin largement remporté dimanche dernier dès le premier tour par Brice Oligui Nguema avec 90,35% des voix.
Oui, je voulais dire que c'était attendu par les Gabonais. Et pour la première fois depuis 2009, nous avons vu que les Gabonais qui sont partis voter, ils savaient pour qui ils devaient partir voter. Ils sont partis voter largement le candidat Oligui et il a remporté à plus de 90%. Et j'ai essayé de sillonner Libreville pour voir et nous avons pu constater qu'il y avait une masse de personnes électorales. Une masse de personnes électorales parce que il ne faut pas oublier que le collège électoral est à 900 000 et quelques voix. Il y a eu 600 000 voix qui se sont prononcées et plus de 500 000 voix à la candidature d'Oligui, du président Oligui. Donc c'est pour dire qu'il a bel et bien été élu. Et puis il faut noter que c'est une élection transparente, du moment où il n'y a pas eu de contestation pour la première fois au niveau de la Cour constitutionnelle.
Alors Serge, justement, je vous lis un commentaire qu'on a recueilli sur les réseaux sociaux de l'émission, un commentaire signé Tanguy de Libreville, comme vous. Il nous dit « Nous vivons un rêve et nous voulons construire avec le président Oligui Nguema le Gabon de nos rêves ». Est-ce que vous partagez le même point de vue que Tanguy à Libreville ?
Oui, nous vivons un rêve effectivement et nous voulons bâtir le Gabon de nos rêves. Parce qu'il faut le dire que le Gabon est à reconstruire. Parce que pour nous, on considère que ce n'est pas un pays qui a été construit. Et maintenant, monsieur le président a dit qu'il était bâtisseur. Alors nous voudrons être les maçons qui accompagnent le maçon principal au soubassement jusqu'à la toiture.
Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite à Libreville, Serge. Merci de votre témoignage. On va passer à l'antenne avec, si je ne me trompe pas, Henri, qui est également à Libreville, la capitale du Gabon. Henri, soyez le bienvenu.
Bonjour, monsieur Dosso.
Alors, selon vous, c'est la première fois dans l'histoire du Gabon qu'un président est élu démocratiquement. C'est un sentiment de fierté et de dignité retrouvée. C'est vraiment ce que vous ressentez ce matin à l'antenne ?
Exactement, exactement. Je crois que bon nombre de Gabonais sont du même avis que moi, parce que le Gabon vient en peine d'écrire une nouvelle page de son histoire, comme je vous disais déjà là, à l'antenne là. Et aujourd'hui, il y a un sentiment vraiment de fierté, parce que ce que nous avons vécu le 12 avril fera quelque chose d'inédit en fait. C'est vraiment inédit.
Alors, vous nous parlez de fierté. La fierté, elle se trouve où ? Dans le bon déroulement des élections, dans la personne du candidat Brice Oligui Nguema qui a remporté haut la main cette élection ? Où se trouve pour vous le motif de fierté ?
Mais le fierté, parce que pour une fois, on a respecté le vote du Gabonais. Nous n'avons pas été votés, mais on connaissait l'issue, c'est-à-dire qu'on est respecté par le vote.
Vous aviez déjà voté, lors des élections auparavant au Gabon ?
C'est la deuxième fois que je vote. 2023 et on va dire 2025 là, mais pas dans le même contexte, vous comprenez. Donc vraiment, pour moi qui a voté en province, ce que nous avons vu, on a pu lire au travers les visages de tous les Gabonais ce sentiment de fierté, de vouloir construire le Gabon nouveau, de vouloir bâtir avec le grand bâtisseur qui est Brice Cotter Oligui et de l'accompagner dans ça. Il y a eu de l'engouement partout, il y a eu de l'engouement. Et pour la première fois, Monsieur Dessous, en moins de 48 heures après avoir voté, on a eu des résultats. Jamais le Gabon a connu ça dans son histoire.
Et c'est vrai que les résultats ont été communiqués dès le lendemain. Écoutez Henri, merci, on a très bien saisi votre point de vue, votre sentiment après cette élection présidentielle au Gabon. Un sentiment que partage également Blériot du Gabon qui nous écrit sur les réseaux sociaux. Je le cite, « Les élections au Gabon sont un exemple à suivre par les autres pays africains avec les résultats disponibles en moins de 24 heures. » On va passer à l'antenne avec Julien qui se trouve à Franceville. Soyez le bienvenu, Julien.
Merci, monsieur Dossou. Bonjour.
Alors, vous faites sonner un son de cloche différent vis-à-vis de nos auditeurs précédents parce que vous n'avez pas voté. Pourquoi vous n'avez pas voté dimanche dernier?
Je n'ai pas voté tout simplement parce que mon candidat, sur qui aurait dû porter ma voix, a été exclu pour des raisons d'ordre politicien.
Quel était votre candidat, Julien?
Mon candidat, c'était monsieur Jean-Rémy Yama. Alors, pour des raisons d'ordre politicien, on l'a écarté.
Alors, attendez, vous dites pour des raisons d'ordre politicien. Je rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas suivi que Jean-Rémy Yama a présenté dans un premier temps un dossier incomplet. C'est ce qui fait qu'il a été retoqué. Et ensuite, il a représenté un dossier et là, la Cour constitutionnelle a estimé a souhaité l'écarter sans donner plus d'arguments. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est des arguments politiciens?
Non, mais M. Jean-Rémy Yama a été écarté pour des raisons d'ordre politicien, M. Dossou. Les services compétents savaient qu'il était un candidat qui pouvait mettre M. Oligui en difficulté, bien qu'ayant avec lui les moyens de l'État.
Alors, Julien, la ligne est en train de se dégrader à Franceville. On va essayer de vous rappeler, on va couper quelques secondes, on va essayer de vous rappeler. En attendant, on va continuer à parler du Gabon, notamment avec... on a déjà passé Serge, on a passé Julien. Je voulais revenir notamment sur le Gabon avec les déclarations de Brice Oligui Nguema, mais également la contestation d'Alain-Claude Bilibinzé qui est arrivé deuxième de la présidentielle gabonaise avec 3,02% des suffrages. Il a reconnu sa défaite, c'était ce lundi devant la presse. Néanmoins, il a dénoncé, je cite, les conditions opaques et contestables de la victoire de Brice Oligui Nguema. Est-ce qu'on a retrouvé Julien en ligne à Franceville? Julien, vous m'entendez?
Je vous entends très bien.
Alors, vous nous disiez que votre candidat Jean-Rémy Yama avait été écarté, mais que pensez-vous des déclarations de dénonciation proférées ce lundi par Alain-Claude Bilibinzé? Vous abondez dans son sens?
Dans quel sens, là, je vous en prie?
Il dénonce les élections en parlant d'élections opaques.
Oh là là, je vous entends à peine, là. Je vous en prie, si vous pouvez répéter, pardon.
Alors, manifestement, la ligne se dégrade au Gabon, malheureusement, on va être obligé de passer aux autres États parce qu'ils veulent parler également de la Guinée. Il nous reste également peu de temps. Alors, Julien, on vous rappellera à Franceville, l'actualité gabonaise, on continue de la suivre dans Appel sur l'actualité. Il nous reste 3 minutes, on va aller en Guinée où l'on retrouve Anthony à Conakry. Bonjour Anthony.
Bonjour Dosso.
Alors vous souhaitiez réagir, les élections n'ont pas encore eu lieu, mais on a annoncé cette semaine que le référendum constitutionnel et les élections qui marqueront la fin de la transition dans votre pays en Guinée ne seront pas organisées par une commission électorale indépendante, mais par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, un choix qui vous a fait réagir.
Oui, ça me fait réagir parce que c'est une bonne nouvelle. Rappelez-vous qu'au temps du feu président général Lansana Conté, les élections se faisaient organiser par le ministère de l'administration du territoire. Et entre-temps, les leaders politiques se sont regroupés pour dire que, écoutez, ce n'était pas un bon schéma, il fallait créer une commission indépendante qui allait s'occuper de l'organisation de ces élections. On a connu ça, les régimes passés, mais la CENI n'a toujours pas fait, c'est-à-dire que cette institution n'avait pas de bons éloges des personnes qui
Alors, Anthony, si j'ai bien compris votre point de vue, vous êtes d'accord avec le fait que ce soit l'administration du territoire et de la décentralisation qui organise cette élection. Je vous demande de patienter 2 secondes, on va accueillir en ligne Ibrahima qui est lui aussi à Conakry. Ibrahima, soyez le bienvenu. Si je comprends bien, cette décision vous laisse un petit peu dubitatif. Expliquez-nous pourquoi.
Bonjour M. Namori, bonjour à tous ceux qui m'écoutent sur RFI et bonjour particulier à M. Alioba qui est injustement incarcéré à la maison centrale de Conakry. Je disais que réellement que l'organisation de ces élections avec le MATD, si vous entendez bien MATD, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est les gouverneurs, préfets et consorts. Ce sont eux qui organisent actuellement des mouvements de soutien pour la candidature du général Mamadi Doumbouya. Si toutefois ce sont eux qui organisent aussi des élections, ils sont juges et partis à la fois. Comment nous pouvons parler de transparence? On n'aura pas de transparence dans ces conditions. Donc, l'organisation des élections à travers le MATD...
Donc Ibrahima Konaké, vous avez des doutes quant à l'organisation de ces élections par l'administration du territoire et de la décentralisation. On aura bien compris votre point de vue, votre témoignage, votre sentiment. Merci de l'avoir exprimé dans cette libre antenne d'Appel sur l'actualité, comme chaque vendredi. Vendredi prochain, nous ouvrirons encore l'antenne afin que vous puissiez débattre et nous donner vos sentiments, vos témoignages, vos réactions et pourquoi pas vos coups de gueule. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci également à l'équipe d'Appel sur l'actualité. Excellent week-end à toutes et à tous. À lundi. Merci.
Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.